Kwang Yong-song. Si vous parlez coréen, je vous demande de m'excuser pour la prononciation. Kwang Yong-song donc, le nom de deux satellites nord-coréens numérotés 3 et 4 qui ont été placés en orbite. Le premier en 2012, le deuxième en 2016. Deux petites boîtes d'une centaine de kilos. Des satellites d'observation de la Terre dits dormants, parce qu'au sol, leurs signaux sont inexistants. Mais eux sont bien en orbite, contrairement aux satellites présentés comme espions que la Corée du Nord a échoué à envoyer dans l'espace le 31 mai dernier et qui portaient le nom de Cholima 1. Si je vous parle de cela, c'est qu'après cet échec, je me suis demandé à quel niveau se trouvait le programme spatial de l'un des pays les plus fermés au monde. J'ai donc appelé Nicolas Roca, le correspondant de RFI à Séoul, en Corée du Sud. Évidemment, les autorités de Séoul regardent avec attention ce qui se passe du côté de Pyongyang, la capitale du voisin du Nord. Car ce que m'a appris Nicolas, que vous allez entendre dans un instant, c'est que la technologie utilisée pour lancer des fusées capables de placer des satellites dans l'espace fait appel à la même technologie que celle utilisée pour tirer des missiles balistiques de longue portée. Et malgré les résolutions des Nations Unies qui lui interdisent tout essai qui aurait recours à ce procédé, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, poursuit dans cette voie.
Haut-parleur, sirène et message d'alerte sur son téléphone lui ordonnant de se préparer à évacuer la ville, Yoo Chae-rin se rappellera de son réveil du 31 mai 2023.
L'alerte a été déclenchée à 6h30 du matin. Je dormais avec mon copain, j'étais surprise, paniquée. On a commencé à prendre nos affaires, j'ai mis de l'eau dans nos bagages, nos chargeurs. On a pris tout ce dont on avait besoin pour se mettre à l'abri, mais on ne savait pas quoi faire, ni où aller, alors on a attendu plus d'informations. Et puis quand j'ai à nouveau regardé mon téléphone, l'alerte était annulée.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Alexandra.
Le récit de cette habitante, il remonte au 31 mai. Ce jour-là, il se passe quoi exactement ?
Alors ce jour-là, les habitants de Séoul, environ 10 millions de personnes, sont réveillés aux alentours de 6h30, soit par les alertes sur les téléphones portables, ces alertes qui normalement servent à prévenir d'un éventuel tremblement de terre ou d'un éventuel danger, ou bien par les sirènes dans la rue et des messages qui demandent aux habitants à se préparer à une éventuelle évacuation du fait d'un danger venu de Corée du Nord. Alors moi, quand je me réveille à ce moment-là, il faut quelques minutes pour reprendre ses esprits et se réveiller réellement. Mais je me dis immédiatement, je pense au fait que la Corée du Nord avait prévenu en amont qu'elle allait tester dans les prochains jours une fusée et qu'elle allait tenter de mettre un satellite de reconnaissance ou bien un satellite espion en orbite. Donc je pense immédiatement à ça et je me demande ce qui a pu se passer pour que les autorités sud-coréennes décident de lancer cette alerte qui est extrêmement inhabituelle pour une fusée alors que la Corée du Nord tire des missiles balistiques à très très haute fréquence et que ce genre d'alerte n'arrive jamais. 20 minutes après donc cette alerte, finalement les autorités expliquent par un message assez laconique que c'était une erreur tout simplement et que les habitants peuvent retourner à leur vie de tous les jours. Et donc moi, après, je suis évidemment allé dans la rue pour aller discuter avec les habitants de Séoul, essayer de pouvoir recueillir leurs ressentis. J'avais déjà échangé par message avec des amis qui m'avaient raconté qu'ils avaient commencé à faire leurs valises pour certains, pour quitter la ville. D'autres avaient commencé à faire des réserves d'eau, tandis que d'autres essayaient d'aller s'abriter dans les lieux qui sont prévus pour cela, parce que dans Séoul, il y a des petits signes, principalement devant les stations de métro, mais pour tout lieu qui peuvent servir d'abri en cas d'éventuel bombardement. Mais ce qui est ressorti surtout de mes échanges avec les habitants ici, c'est un énervement du fait d'avoir été réveillé à une heure aussi matinale, mais aussi une espèce de frustration et d'inquiétude par rapport au fait que les procédures n'étaient pas forcément claires, que les autorités n'avaient pas indiqué vers quel abri il fallait se diriger et que tout cela avait été assez chaotique finalement.
Un vrai vent de panique, tu l'expliques très bien. Pourtant, si j'ai bien compris, la Corée du Nord avait prévenu de ce lancement. En fait, on n'avait pas la certitude qu'elle disait vrai, c'est ça ? Plus personne aujourd'hui ne croit le Nord ?
Disons que par le passé, la Corée du Nord a pu déguiser des essais de missiles balistiques intercontinentaux en des lancements de fusées. C'est notamment arrivé lors de ses derniers essais en 2016. Et donc, c'est de ce fait que vient l'inquiétude, disons, et la remise en cause de la part de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis. Mais le contexte a énormément changé depuis 2016 et désormais la Corée du Nord tire des missiles balistiques ouvertement et à une fréquence sans précédent. Pour te donner un ordre d'idée, sur l'année 2022, la Corée du Nord a tiré 69 missiles. En 2023, elle en a tiré 25 pour l'instant, si on ne compte pas justement cette fusée. Donc en quelque sorte, on ne comprendrait pas vraiment pourquoi la Corée du Nord s'embêterait à masquer ses essais de missiles balistiques intercontinentaux et d'inventer un lancement de fusée, alors qu'elle le fait de manière extrêmement fréquente et extrêmement quotidienne. Il y a un côté politique aux condamnations sud-coréennes, japonaises et américaines. C'est-à-dire que pour lancer ces fusées, la Corée du Nord utilise des moteurs ou bien des enseignements qu'elle a pu apprendre grâce à son programme balistique. Et c'est donc une violation des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. En quelque sorte, Washington, Tokyo, Séoul se doivent de condamner ces lancements de fusées, même s'il ne s'agit pas de lancements qui vont en quelque sorte réellement améliorer le programme balistique nord-coréen.
Cette fusée, elle s'est écrasée en mer Jaune. Les débris, ils ont déjà été récupérés ou pas ?
Eh bien, l'armée sud-coréenne a récupéré des débris dès l'après-midi. Elle a d'ailleurs publié des photos qu'elle a communiquées. Les opérations continuent. Pour l'instant, tous les débris n'ont pas été récupérés. Et la communication de l'armée sud-coréenne n'a pas été extrêmement transparente. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles pièces ont été récupérées. Si le satellite en lui-même a été récupéré, on sait que c'est le deuxième étage de la fusée qui a dysfonctionné. Donc, on peut imaginer que le troisième étage pourrait être retrouvé par l'armée sud-coréenne, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Évidemment, ça peut être des ressources très intéressantes pour les Sud-Coréens. Cela peut nous permettre d'en apprendre plus, notamment sur le type de moteur qui a été utilisé. Il y a des experts qui, quand ils ont vu les photos qui ont été communiquées par la propagande nord-coréenne, ont pu nous dire qu'il s'agissait peut-être d'un moteur qui était inspiré du Hwasong-14 ou du Hwasong-15, à savoir de deux missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord. En attendant, c'est l'armée sud-coréenne qui a accès aux débris et qui poursuit ses recherches. Et ce sera à elle de décider si elle souhaite communiquer davantage sur ces fameux débris.
Le mot espion, Nicolas, ça peut faire peur. Ce satellite, il était présenté comme un satellite espion. Au fond, ça veut dire quoi ?
Alors oui, satellite espion ou satellite de reconnaissance, ça veut dire que c'est un satellite qui a pour objectif de prendre des photos, tout simplement. Là, l'objectif, évidemment, c'est de photographier des actifs militaires américains et sud-coréens, de pouvoir observer hypothétiquement en temps réel les activités militaires américaines et sud-coréennes qu'ont repris à une haute intensité depuis maintenant un peu plus d'un an et l'arrivée des conservateurs au pouvoir à Séoul. Cela étant dit, on doute des capacités de ce satellite espion de pouvoir réellement fonctionner pour de très nombreuses raisons. Déjà, les deux satellites qui ont été mis en orbite par la Corée du Nord auparavant ne fonctionnent pas. Ensuite, on pourrait se demander avec quelle qualité les photos pourraient arriver en Corée du Nord. Et surtout, est-ce que ces photos-là seraient de meilleure qualité que ce que peuvent nous apporter les satellites commerciaux pour de nombreuses zones sud-coréennes qui pourraient être observées ? Donc évidemment, on se demande à quel point est-ce que ce satellite pourrait être utilisé d'un point de vue pratique pour l'armée nord-coréenne. Mais il y a évidemment une dimension de propagande. Voilà, l'objectif aussi pour le régime, c'est de montrer qu'il est capable d'arriver à faire ce que font déjà de nombreux autres pays et qu'il est en mesure seul de parvenir à avoir son propre satellite en orbite basse.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas, les ambitions spatiales de la Corée du Nord, elles ne sont que militaires ?
Disons qu'elles sont principalement militaires. L'objectif un peu de la Corée du Nord en ce moment, c'est d'essayer de montrer, en tout cas c'est la sensation qu'ont les différents experts avec qui j'ai parlé, c'est d'essayer de montrer que c'est un programme civil. Il y a plusieurs éléments qui nous permettent de dire cela. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, la Corée du Nord a prévenu en avance. Elle a aussi communiqué de l'échec extrêmement rapidement, ce qui est assez rare. La Corée du Nord, habituellement, est assez réticente à communiquer sur ses échecs. Ensuite, elle a dévoilé des photos. Et donc, il y a une certaine forme de volonté, voilà, d'afficher une transparence qui est un peu plus importante que pour le programme balistique nord-coréen. Il y a aussi un autre objectif du programme spatial nord-coréen qui, là, si on en croit les mots de la propagande et du parti, serait purement civil. Ce serait de placer un satellite en orbite géostationnaire, donc avec un objectif de télécommunication et aussi de surveillance météorologique. Et donc là, ça serait un vrai programme civil, entre guillemets, mais on en est encore loin.
Tu as employé le mot de transparence. Alors avec la Corée du Nord, en général, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des sites, des lieux de lancement de cette industrie spatiale? Ça se passe où tout ça?
On va dire qu'il y a trois lieux clés quand on parle du programme spatial nord-coréen. Le premier, c'est Tongeri. Il est situé tout à l'est de la Corée du Nord, sur la côte. C'est de là qu'ont été tirés les premiers satellites nord-coréens en 1998 et en 2009. Maintenant, les images satellites que l'on reçoit de ce site montrent qu'il est plus ou moins à l'abandon et les spécialistes semblent douter qu'il puisse être réutilisé. Ensuite, dans la deuxième phase du programme spatial, on va plutôt passer du côté ouest de la Corée du Nord, sur le site de Sohae. C'est là que les premiers succès aussi du programme spatial nord-coréen ont eu lieu, donc avec les premiers satellites mis en orbite. Très récemment, un nouveau pas de tir a été construit juste à côté, encore plus près de la côte. C'est d'ailleurs de là qu'a été tirée la fusée de ce mercredi. Et puis, il y a un dernier lieu, c'est le centre de contrôle des lancements à Pyongyang. C'est pour permettre au cadre du parti de pouvoir suivre en temps réel les futurs lancements de satellites et aussi permettre un contrôle depuis la capitale. Mais je dirais quand même que le lieu central désormais, c'est bien Sohae. C'est là que les ingénieurs de la NADA, l'agence spatiale nord-coréenne, ont leurs locaux. C'est là qu'ils travaillent et c'est là aussi qu'on recense le plus d'activités. C'est les lieux qu'on peut identifier. Évidemment, voilà, avec la Corée du Nord, il faut aussi admettre qu'on ne sait pas tout.
Tu viens d'évoquer le mot NADA, c'est le nom de l'agence spatiale nord-coréenne. Alors c'est assez troublant, cette agence, je crois qu'elle a été inaugurée en 2013 et son logo et son nom ressemblent étrangement à celui de la NASA, l'agence spatiale américaine. Il y a une explication à ça ou pas?
Disons qu'en Corée du Nord, ça arrive qu'il y ait des imitations similaires, comme souvent dans d'autres pays hostile aux États-Unis, une espèce d'admiration et de haine mélangée. Donc après, il n'y a pas eu d'explication officielle de la propagande nord-coréenne, comme tu peux l'imaginer, pour expliquer voilà cette ressemblance. Mais évidemment, ce n'est pas forcément anodin, étant donné que en plus la NASA, c'est un nom que tout le monde connaît, c'est le nom un peu référence quand on parle de programme spatial. Donc, mais voilà, la propagande ne s'est pas prononcée pour expliquer les raisons de ce mimétisme.
Tu m'as dit tout à l'heure que, si j'ai bien compris, le spatial civil en Corée du Nord, c'est pas vraiment ça. Pourtant, depuis la création de cette agence, la NADA, le pays il a quand même fait savoir qu'il aimerait bien réaliser des missions vers la Lune ou vers Mars. On en sait plus ou là, on est vraiment très très loin de tout ça.
Alors en fait, le problème, c'est que la Corée du Nord a fait des annonces à plusieurs reprises et puis après, le programme spatial a été interrompu. Entre 2016 et 2022, par exemple, c'est clairement plus l'objectif principal du régime. Ce qu'il faut savoir avec la Corée du Nord, c'est que malgré tout, les ressources, elles restent assez limitées. Il faut trouver des moyens pour financer tout ça. Le pays souffre des sanctions. Depuis 2019, il y a la pandémie de Covid et le pays s'est refermé sur lui-même. Il y a moins d'importations. Donc voilà, il faut aussi savoir prioriser ses ressources en Corée du Nord et le régime décide de se concentrer sur soit un objectif militaire, soit un objectif plutôt alimentaire ou autre. Et là, en l'occurrence, entre 2017 et 2022, l'objectif du régime était plutôt d'améliorer son programme balistique et c'est pour cela que la Corée du Nord a tiré un nombre record de missiles. Récemment, le régime est parvenu à avoir plusieurs succès en ce qui concerne les missiles à longue portée avec le Hwasong-18, le Hwasong-17, qui représentent des avancées majeures. Et on peut imaginer que une fois que ces avancées ont été faites, le régime a décidé finalement de se concentrer à nouveau sur le programme spatial, à voir combien de temps est-ce que cela peut durer. Ce dernier lancement, c'est tout de même une avancée pour le programme spatial nord-coréen. Donc disons que si le programme spatial nord-coréen continue de se développer, on peut imaginer que la part du programme spatial civil soit plus importante que l'aspect militaire. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est déjà dans les prochains mois pour les Nord-Coréens de réussir à apprendre de l'échec pour pouvoir réussir à placer en orbite basse un satellite de reconnaissance qui fonctionne vraiment. Une fois que cet objectif sera atteint, peut-être qu'ils continueront à essayer de développer leur programme spatial, mais quand on parle de la Corée du Nord, il faut toujours rester prudent. Et donc, avant de parler de la Lune ou de Mars, je pense qu'il y a beaucoup d'objectifs que les Nord-Coréens doivent atteindre.
Tu dis tout ça à un coup, tu m'as dit aussi que les Nord-Coréens avaient multiplié sur l'année 2022 les lancements de missiles balistiques.
les tests en tout cas. Est-ce que l'on sait qui finance derrière ?
Alors évidemment, c'est assez opaque, mais généralement, comme pour beaucoup de choses en Corée du Nord, c'est l'État qui finance. Clairement, c'est l'État qui a la main mise là-dessus. Alors en effet, la Corée du Nord vit des moments difficiles. Les importations qui viennent de Chine ont réduit drastiquement durant le Covid, même si la situation s'est légèrement améliorée. Les sanctions tout de même continuent de heurter le régime. Mais dans le même temps, la Corée du Nord fait preuve de grandes ressources quand il s'agit de trouver les moyens de financer ses ambitions. On a beaucoup parlé ces dernières années des hackers nord-coréens qui parviennent à détourner des milliards de dollars de crypto-monnaie, c'est 1,7 milliard de dollars, il me semble, sur l'année dernière. Il y a un tas d'activités illégales qui sont conduites par le régime, des tas de moyens qui sont trouvés pour détourner les sanctions afin de pouvoir financer ses ambitions, qu'elles soient balistiques ou spatiales.
Mais il n'y a pas d'autres États qui interviendraient dans ce financement ?
C'est la question que j'ai posée à beaucoup d'experts sur le financement en tant que tel. Ils n'étaient pas en mesure de me répondre. Peut-être que sur certaines parties de fusées, il y a une aide qui peut être apportée par la Chine, par la Russie. Évidemment, c'est deux grands acteurs qui peuvent potentiellement aider. On sait que l'Union soviétique et la Russie, ensuite, a beaucoup aidé la Corée du Nord sur l'ingénierie spatiale et dans les premiers temps du programme. Désormais, les différents experts à qui j'ai parlé misent plutôt sur le fait que la Corée du Nord essaye de se débrouiller surtout par elle-même. C'est un peu la doctrine de l'État nord-coréen. Ça s'appelle le Juche. Cette doctrine, elle veut que l'État, le pays, la nation, se débrouille seul en autonomie avec le moins d'aide possible des voisins. Après, évidemment, c'est difficile de savoir si la Chine ou la Russie a pu tout de même aider peut-être sur certains aspects. La tendance semble plutôt être au fait que les Nord-Coréens, en tout cas pour ce dernier lancement, se sont débrouillés plutôt tout seuls.
Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage.
Merci Alexandra, au revoir.
N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager avec vos amis, à vous abonner à Témoins d'Actu sur votre plateforme de podcast favorite. À très vite.